Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Bonjour, ici Julie, je suis ravie de vous retrouver et d'accueillir aujourd'hui Maud Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ensemble, on va discuter évidemment de biodiversité et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur les enjeux de la protection des espèces animales et végétales. Bonne écoute à vous! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie Verte et je suis ravie d'accueillir Maud Lelièvre, dont je vais peut-être laisser le plaisir de se présenter à nos auditeurs et auditrices.
Bonjour, merci de votre invitation. Donc Maud Lelièvre, je suis présidente de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature.
Super, mais du coup on va parler biodiversité dans cet épisode et vous allez peut-être nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est l'UICN. Je vais inverser systématiquement, je pense, le U, le I, mais en fait tout le monde connaît sans forcément connaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle au sein du comité, le rôle de l'UICN et ses missions principales que peut-être on connaît, nous, dans l'actualité?
L'UICN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature. C'est une grande organisation mondiale présente dans l'ensemble des pays à travers à la fois ses États et ses organisations, ses ONG, comme, dont on connaît les branches françaises comme France Nature Environnement, WWF ou la LPO. Et cette organisation se réunit tous les 4 ans pour définir des grandes résolutions mondiales, des dispositions, un peu comme pendant les COP du climat ou de la biodiversité, mais qui s'appliquent dans les pays. Elle a cette particularité de ne pas être que ONG, elle est aussi agence d'État, organisme de recherche scientifique et surtout les États qui, du coup, peuvent mettre en œuvre les mesures qu'on prend de façon commune. Elle a un certain nombre d'outils d'intervention, beaucoup basés sur la science et sur la recherche, ça fait partie de son essence. Et puis on en connaît souvent, parce qu'on a entendu parler, les listes rouges, cette publication, ce baromètre qui permet d'évaluer l'état de la biodiversité et qui est absolument nécessaire pour préserver justement la biodiversité.
Alors tout à fait, on va décliner un petit peu ces fameuses listes rouges. Avant peut-être, pour qu'on soit tous d'accord sur le sujet d'aujourd'hui, comment on pourrait définir la biodiversité de manière assez pédagogique pour tout le monde?
De manière simple, c'est le tissu vivant de la planète. Ça recouvre l'ensemble des milieux naturels, des formes de vie, donc les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, et puis les interactions. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux scientifiques, que lorsqu'on atteint les écosystèmes, on atteint aussi à la survie des espèces, on atteint à la diversité génétique, à la diversité des gènes, et l'ensemble de ces conséquences, de cette atteinte, a des conséquences sur l'alimentation, les maladies. On en a vu les effets avec le Covid, mais c'est juste un tout petit exemple, malheureusement, dans les risques qu'on peut connaître. La disparition des espèces et des conséquences en chaîne qu'on ne peut pas forcément mesurer. Voilà, donc c'est le bon état de notre planète.
Et alors, quand on dit que la biodiversité est en danger, on va revenir sur cette notion. En fait, on ne fait pas seulement référence au fait qu'il y a des espèces qui vont disparaître. On a parfois en tête l'ours polaire, le tigre, etc. Mais ça peut être des choses plus petites, peut-être des mécanismes dans ces écosystèmes qui sont menacés.
Des mécanismes, et puis vous faites référence aux animaux, c'est également les cas des plantes. Alors c'est moins visible parce qu'évidemment on s'intéresse à la fois toujours à ce qui est le plus emblématique, ce qui va nous sembler plus sympathique. On sait qu'on a moins de mal à avoir des plans d'action ou à trouver des financements pour sauver la girafe ou l'ours polaire, mais toute espèce animale a une valeur et une utilité, et c'est le cas également pour les plantes. Pour les plantes, par exemple, on a 57% des plantes qui sont utilisées pour la médecine de façon locale ou de façon mondiale, et on a plus de 70 000 plantes qui sont utilisées et consommées en nourriture. Donc on voit combien on peut être lié Et malheureusement, le mauvais indicateur, pour parler peut-être de quelques mauvaises nouvelles, c'est que 40% des plantes qu'on connaît sur la planète sont menacées d'extinction.
Tout à fait. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. On va essayer de faire des petites pauses, des fois réjouissantes, pour ne pas plomber tout le monde. Mais quand même, on ne peut pas nier aujourd'hui, ou en tout cas, vous allez nous dire si c'est quelque chose qui est encore nié, qu'il y a un lien entre le changement climatique et la biodiversité. On le fait de plus en plus. Est-ce que c'est comme le réchauffement climatique, il y en a qui doutent encore de la menace qui pèse sur la biodiversité? Est-ce qu'il vous faut encore convaincre des dangers qui pèsent dessus?
Je pense qu'on n'a pas forcément de mal à convaincre de la disparition de la biodiversité, mais on a plus de mal à convaincre du risque et des conséquences en chaîne de la disparition de la biodiversité. La question qu'on a, le réchauffement climatique, les gens voient un petit peu, ils se disent, bon, les étés sont plus chauds, on a des méga-feux, cet été, ça a été la sécheresse partout avec des fleuves asséchés, il y a une sorte de conséquence directe, une inquiétude que peuvent avoir les gens. Pour la biodiversité, c'est à la fois plus compliqué à comprendre, ce sont des choses qu'on ne voit pas, et quand on ne connaît pas et on ne voit pas, ça fait partie des cœurs de mission de l'UICN, de faire voir les choses et d'apprendre à observer. C'est que ce qu'on ne connaît pas, on n'apprécie pas et on ne protège pas. La question qui arrive de temps en temps, c'est, mais finalement, si demain, on a des espèces qui disparaissent, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça ne nous empêche pas, nous, humains, de continuer à vivre de la même façon? Et la réponse est sans doute non.
Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi, c'est que voilà, alors on reparlera de ces fameuses listes rouges, mais typiquement, voilà, un papillon qui est inscrit sur la liste rouge, c'est pas juste un papillon qui va disparaître, c'est toute une cascade ensuite d'événements qui nous menacent à nous aussi, notre mode de vie. Est-ce que c'est difficile d'avoir des données scientifiques sur les espèces végétales plus qu'animales?
Toute étude est difficile parce qu'on n'en connaît qu'une petite partie, qu'il faut financer les études, on aurait besoin de beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de scientifiques. Et ensuite, il ne faut pas rester simplement à l'état de constat ou de baromètre, il faut pouvoir mettre en place des plans d'action et des plans de conservation. Et comme les conséquences sont complexes et enchaînent, quand on atteint les écosystèmes... Il y a un décalage dans le temps, c'est pas immédiat, en fait les conséquences sont pas immédiates. Il faut vraiment avoir cette étude au plus près. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui les moyens de pouvoir évaluer une partie et de pouvoir projeter ces résultats sur une autre partie du vivant. Il faut prendre de façon urgente les décisions. C'était un peu le message qu'on a délivré, nous, au niveau de la France. La France a accueilli l'année dernière le congrès mondial de l'UICN qui se réunit tous les 4 ans. Et un certain nombre, à cette occasion, d'études ont été publiées qui mettent en exergue les menaces qui pèsent, par exemple, sur les espèces sauvages qui sont apparentées aux plantes cultivées, pour se rapprocher des centres d'intérêt de vos auditeurs.
Ah, mais tout à fait. Ça, c'est des sujets pareils dont on parlera. Peut-être pour expliquer aux gens, donc la liste rouge, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est généralement les gens connaissent en réalité qu'il y a une liste rouge des espèces menacées. Bon, je pense souvent, ils pensent plutôt aux animaux plutôt qu'aux végétaux, mais elle concerne aussi les végétaux. Comment est-ce qu'elle est actualisée, mise en place? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est que l'UICN qui s'occupe de la liste rouge?
Alors, la méthodologie est celle de l'UICN avec les scientifiques dans le monde entier. Elle est généralement portée, travaillée... au plan national avec d'autres organismes. En France, on travaille main dans la main avec le Muséum d'Histoire Naturelle, l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Elle peut être nationale, elle peut être régionale, elle peut être mondiale, et elle est remise à jour de façon régulière. Pas suffisamment, on n'a pas un état des lieux tous les ans. C'est vraiment un baromètre qui permet d'identifier les niveaux de risque. Donc, pas l'état de disparition, mais les niveaux de risque. Donc, on va des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, jusqu'aux espèces qui sont... Alors, les espèces qui sont en danger d'extinction, qui sont quasi menacées, pour lesquelles il y a des préoccupations mineures. Et puis, enfin, des espèces qu'on n'a pas pu évaluer parce que les données sont insuffisantes. Et c'est dans ces trous noirs de la connaissance que le risque se trouve aussi. Voilà.
Ok, est-ce qu'il y a des espèces qui passent parfois en danger d'extinction à pas du tout menacées? J'ai des grands doutes, mais est-ce qu'il y a quand même des espèces qui évoluent d'un niveau d'alerte à l'autre? Oui.
Dans les bonnes nouvelles, oui. Et puis on a aussi, en fait, lorsque selon le niveau d'action publics, les moyens qui sont consacrés, les zones qui sont touchées, c'est plus facile parfois sur une zone restreinte. On a la mise en place de plans nationaux d'action, de plans nationaux de conservation qui permettent d'avoir des nouvelles positives. C'était le cas l'année dernière au moment du congrès mondial où on a eu des nouvelles positives sur les raies et puis des nouvelles sur le thon et puis des nouvelles négatives sur les requins. Donc voilà, en fonction des plans et des choix qui sont faits en matière de préservation de l'espace naturel, de l'habitat naturel, de pêche, d'utilisation des polluants, des pesticides, toutes les atteintes que l'on peut connaître, on peut diminuer la pression sur les espèces et on a même des cas où on peut réintroduire des espèces ou des espèces qui étaient particulièrement en danger d'extinction peuvent changer de catégorie. Mais ça nécessite du temps et ça nécessite aussi de l'anticipation, évidemment, du temps et de l'action ensuite. Ça ne peut pas se produire de façon spontanée lorsque l'espèce a été très gravement menacée.
Évidemment. Est-ce qu'il y a des espèces végétales qui sont menacées d'extinction, qu'on connaît de nom ou...
Alors oui, il y en a. Je pense que peut-être ce qui est le plus parlant, ce sont les plantes, les espèces sauvages qui sont apparentées aux plantes cultivées. C'est une étude qui a été publiée l'année dernière au moment du congrès mondial, qui était surtout centrée sur l'Amérique du Sud. Et qui analysait plus de 200 plantes dont les productions et dont les plantes étaient en lien étroit avec des productions de maïs, pommes de terre, haricots, courges, vanille, avocats. Et en fait, cette étude montrait que espèce par espèce, il y avait, par exemple, les vanillas avaient, dans un certain nombre de régions, elles étaient classées en danger critique d'extinction sur la liste rouge.
Alors même qu'elles sont cultivées
Alors pour l'alimentation. C'est des espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées, donc c'est un petit peu différent, mais c'est quand même un indicateur, et elles sont souvent d'ailleurs utilisées pour obtenir des cultures plus résilientes au changement climatique, qu'on voit dans les jardins et qu'on voit dans la nature, ou de mieux, elles permettent aussi, elles résistent aussi mieux aux événements météorologiques, elles sont plus résistantes au froid. Voilà, donc c'est des études qui sont extrêmement importantes et qui sont importantes aussi en conséquence pour l'humain, puisqu'on est aujourd'hui face à une population mondiale croissante et qu'on a un besoin de sécurité alimentaire durable pour répondre à cette population mondiale croissante.
Bien sûr, oui. Et puis les espèces végétales, c'est comme vous le disiez au tout début de cet épisode, c'est la santé et l'alimentation. Donc c'est vrai que ça alerte peut-être moins le grand public quand il y a une orchidée qui est en danger, etc. Mais c'est tout aussi primordial pour nous, en tout cas.
On a avec l'UICN évalué à peu près 2000 espèces sauvages qui sont apparentées aux cultures. Donc c'est une vraie base de données depuis 2016. Et c'est en France, c'est l'INRAE, par exemple, qui travaille beaucoup sur ces sujets. Et ces connaissances compilées permettent aussi d'avoir des indicateurs de façon plus générale sur l'état de la biodiversité.
Ça plaide un peu aussi pour tout ce qui est semences. Voilà, il y a un gros débat sur les semences anciennes et ces semences qui sont au catalogue, évidemment, des semences. Ça rentre un peu dans ce débat-là aussi. Il faut pouvoir protéger le patrimoine génétique, évidemment. Des anciennes semences. Vous voyez la différence quand même de traitement entre la biodiversité animale et végétale ?
Moi, je vois la différence qu'on voit surtout, c'est entre les espèces que les gens aiment et les espèces que les gens n'aiment pas. Nous, on a une théorie sur les animaux moches à l'UICN. C'est que, d'ailleurs, de façon souvent liée à une méconnaissance, on a l'impression qu'il y a un panda, c'est mignon, une girafe, c'est gentil. C'est quand même des animaux sauvages qui causent aussi la mort d'humains dans les endroits où ils sont. Hein. C'est pas des grandes peluches géantes. Mais effectivement, on a un vrai intérêt des gens pour des espèces emblématiques. Et à l'inverse, un animal qui va être beaucoup plus commun ou qui va être considéré comme plus commun, moins beau, va attirer à la fois moins d'intérêt, moins de mesures de protection, mais aussi moins de fonds de protection. On est dans un monde concurrentiel avec les réseaux sociaux et on sait que la plupart des fonds arrivent sur 10 grandes espèces majeures et on a du mal à intéresser. Donc je pense que demain, on aura moins de mal à intéresser à une orchidée que une plante qui va être, je sais pas, un prunier, j'en sais rien, ou un, voilà.
Mais c'est le cas des insectes, typiquement.
C'est le cas des insectes, par exemple, des gastéropodes, oui. Donc il faut préserver les espèces qu'on considère comme moches.
Tout à fait, mais il faudrait faire la même campagne que pour les légumes moches au supermarché. Peu, ouais. Sauver les espèces moches. Non, mais c'est vrai. Est-ce que on a une idée des causes? Alors, évidemment, on a une idée des causes qui pèsent sur la biodiversité. Est-ce que ces causes sont les mêmes pour la biodiversité animale ou végétale, ou est-ce qu'il y a des, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des mesures aussi qui sont différentes entre protéger une espèce animale et protéger une espèce végétale? Est-ce que ça se fait pas du tout dans le même
Alors pour les espèces végétales, on a un lien beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide lié à la sécheresse, lié au réchauffement climatique. On le voit sans doute de façon accélérée. Il y a aussi des atteintes qui sont un peu différentes. L'espèce animale, ça va plutôt être la chasse. Pour les espèces végétales, on peut avoir une modification des systèmes agricoles traditionnels et un passage généralisé aux herbicides, aux pesticides, à la mécanisation. Je pense que dans les traits communs, il y a l'absence de connaissances. On peut faire un lien entre les espèces exotiques envahissantes que les gens peuvent transporter et ramener dans le monde animal, et on peut faire la même chose dans le monde végétal. On a vu beaucoup de villes planter de l'ambroisie, par exemple, parce que c'était joli en ornement, sans forcément avoir l'idée de ce que pouvaient être les conséquences. Donc, on a le même type de le même process de contamination, ou des animaux, ou des cultures. Et après, les menaces, elles sont aussi communes, surexploitation forestière, agricole. Voilà. Comme il y a des petites différences, ce n'est pas totalement le même mode de préservation. Je pense qu'on doit manquer d'intérêt et de connaissances encore pour les plantes. Et puis, on a peut-être cette idée que c'est encore moins grave que pour les animaux, que finalement, on ne les connaît peut-être pas partout, qu'il y a des espèces qui sont proches. Voilà, c'est peut-être... Peut-être ça, la différence sur la mise en place de plans d'action.
Est-ce qu'il n'y a pas, pour le coup, pourtant une capacité d'action plus directe et peut-être avec des strates différentes sur les espèces végétales? Parce qu'un animal, alors évidemment, j'ai toujours en tête des gros animaux, mais vous parlez des girafes. Bon, si les girafes sont en danger, nous ici, on va pouvoir faire peu de choses, en tout cas, que ce soit individu, collectivité ou autre. C'est vrai que les espèces végétales, voilà, on a en France, on a quand même... pas mal de strates de protection, d'espaces naturels protégés, on a un droit à l'environnement. Est-ce que ce n'est pas des choses qui sont plus faciles à mettre en place pour protéger une espèce végétale?
En milieu urbain, en tout cas, ça peut être plus facile. En milieu urbain, on a toutes les villes qui développent la protection de la nature en ville, mais aussi les rues vertes, la replantation, l'idée qu'on peut remettre du naturel. Et puis, on peut lutter assez rapidement contre... La mise en jachère de certains territoires, la lutte contre les pesticides, c'est peut-être plus facile d'avoir une action rapide quand elle est déterminée.
Au congrès de Marseille, donc, vous en parliez l'année dernière, oui, qui a été organisé en France, pour le coup, il y a eu comment ça se passe à la fin? C'est comme la COP21, il y a des propositions, des conclusions qui amènent à agir dans un sens déterminé?
Alors, c'est un long processus. C'est pour ça qu'il y a un congrès que tous les 4 ans, pendant 2 ans à peu près, chaque État, chaque groupe d'ONG peut préparer des motions, des décisions. Donc, tous les textes préparés n'arrivent pas à maturation. Il y a un long processus d'amendement et de travail en amont. Et celles qui sont adoptées deviennent des résolutions, c'est-à-dire des textes qui peuvent s'appliquer, qui font un certain nombre de recommandations. C'est pas, on dit toujours souvent que les grandes réunions internationales ne servent à rien, qu'elles ne bougent pas d'items, que finalement elles n'engagent pas. On a au sein de l'UICN, nous, une politique de suivi, c'est-à-dire que les résolutions sont adoptées, mais chacun des groupes, c'est le cas du comité français de l'UICN, qui est le deuxième plus grand au monde, après les États-Unis, suit les résolutions, discute avec le gouvernement français, vérifie que les engagements qui ont été pris, par exemple, sur la protection de la haute mer ou sur la mise en place de plans spécifiques des espèces et suivis par la France, et chacun à son niveau met ça en place. Alors évidemment, c'est plus facile dans certains États où il y a plus de moyens. On vient de traverser deux années de crise sanitaire assez violente. notamment avec des impacts très directs sur les populations les plus fragiles. Il y a des pays où l'état et la situation de guerre ne rend pas les choses évidentes non plus, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir partout, à travers ces organisations, un suivi des résolutions et de vérifier tous les 4 ans ce qui a été appliqué et de prendre de nouvelles dispositions. Ça prépare aussi les autres négociations internationales comme les COP, puisqu'on imagine les votes sont publics quand des États ont voté pour une résolution sur l'Amazonie ou sur la Méditerranée, que dans les négociations suivantes, elles auront la même position.
D'accord, tout est assez lié. Alors ça, c'est les grandes mesures voilà, qui nous concernent, mais qui sont quand même assez loin de l'individu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre, nous, en place en tant qu'individu pour protéger la biodiversité, peut-être au-delà, alors s'informer peut-être juste et connaître, comme vous le disiez, les espèces animales ou végétales, mais pour les espèces végétales, est-ce qu'il y a des choses chez nous qu'on peut faire facilement, qui pourraient avoir un impact, un intérêt ?
Alors on peut faire, ça dépend de là où on vit, mais je pense que même en milieu urbain, on peut totalement être acteur et préserver la biodiversité. On peut la préserver dans son jardin ou sur son balcon. Il y a des choses qui sont assez connues aujourd'hui, comme planter des plantes mellifères qui attirent les abeilles. On peut s'interroger vraiment sur le choix des espèces qu'on ramène chez soi, qu'on plante sur son balcon, en évitant la propagation d'espèces invasives. Je pense qu'il y a encore un travail à faire. Parce que on a des espèces exotiques qui fournissent peu de nectar, mais qui sont jolies ou qui sont faciles à entretenir. Donc, je pense que ça fait vraiment partie du travail qu'on peut chacun faire en s'interrogeant, comme on le fait quand on fait ses courses sur l'alimentation. On peut apprécier et aimer les mauvaises herbes. Ça c'est ma théorie. D'abord, il y en a beaucoup qui sont comestibles. On peut aussi faire des engrais naturels ou des soins naturels pour son jardin, son potager, avec des macérations de purée d'ortie pour renforcer ses plantes ou autres. Donc voilà, on peut même être un néo-jardinier et s'informer. Et puis on peut laisser aussi dans son jardin, si on a la chance d'avoir un petit jardin, un espace sauvage pour aider la biodiversité à se régénérer. Et globalement, collectivement, je pense qu'on a tous beaucoup à faire pour lutter contre les pollutions visuelles et sonores. C'est les études qui avaient été publiées l'année dernière, où les études très sérieuses qui ont été menées aux États-Unis, à l'Université de Californie, qui ont montré que les plantes poussaient moins vite en raison du bruit. Donc il n'y a pas simplement l'être humain qui souffre, mais la pollution sonore, comme la pollution visuelle, lumineuse, peut atteindre. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire. Et puis moi je dirais, ce qu'on peut faire avant tout, c'est transmettre à ses enfants le goût et l'intérêt de la nature. Beaucoup dans cette génération, enfin dans la génération des jeunes adultes, sont la première ou la deuxième génération qui n'est pas née à la campagne, qui n'a pas grandi avec des grands-parents agriculteurs. Enfin, c'est particulièrement vrai en France. La chance, j'avais des parents et des grands-parents qui étaient liés à la terre, mais la génération de ma fille, par exemple, c'est la première qui va grandir dans les villes, qui va sûrement grandir plus loin. Et si on ne reconnecte pas à la nature, on ne reconnecte pas au vivant, et c'est maintenant qu'il faut transmettre, parce que ce n'est pas au bout d'une ou deux ou trois générations, quand on aura des gens qui auront été éloignés des centres de production alimentaire, enfin, l'alimentation, ça ne pousse pas dans les supermarchés, qui n'auront pas le rapport à la terre, on aura perdu cette connexion. Nous, on utilise souvent l'étude en psychologie. Il y a plusieurs études qui sont faites en psychologie, mais à l'UCN, on utilise l'étude de Wesley-Schlutz qui dit l'intérêt des gens sur la nature est lié à trois valeurs. La connexion, le cognitif, le fait que la personne est inclue la nature dans son mode de pensée, dans ce qu'elle est. Le soin, l'affectif, donc elle a envie de préserver, d'avoir un environnement positif autour d'elle, et puis ça induit l'engagement, le comportement, et on a besoin de cet engagement de ces individus, jeunes individus ou plus âgés, qui vont préserver la nature, sinon on restera sur un comportement individualiste et on ne pourra pas préserver cette biodiversité.
Tout à fait, très belle parole. Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'il faudrait éviter de faire en ce moment? On parle beaucoup, donc évidemment après cet été très chaud, très sec, de réchauffement climatique, d'actions individuelles, de prendre moins l'avion, de manger moins de viande. Et est-ce qu'il y a des choses aussi pour la biodiversité qu'il faudrait éviter de faire, qui sont vraiment directement liées à une menace sur des espèces chez nous, près de chez nous, ou plus loin de chez nous, évidemment?
Piétiner la nature, peut-être. Moi, ça que j'appelle le syndrome Instagram, et je sais que ça peut faire envie. La reconnexion avec la nature, c'est aussi d'aller dans les mêmes endroits, ce qu'on a pu voir. Il faut se dire qu'il ne faut pas y toucher. On peut aller voir, on peut observer, mais on ne va pas forcément. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures de prévention qui sont prises sur le littoral ou dans les parcs nationaux, mais il faut vraiment suivre les indications parce que voilà, on ne dérange pas des nids d'oiseaux, on ne casse pas des arbres dans la nature. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Ça, la reconnexion, ce n'est pas forcément à tout prix. Voilà.
Tout à fait. Est-ce que, alors deux questions pour essayer d'avoir une réponse positive pour terminer. Est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles dans votre travail, des fois quand même? Est-ce qu'il y a des jours où il y a des bonnes nouvelles? Ou est-ce que, à votre avis, il pourrait y avoir un jour un espèce de retour en arrière positif? Est-ce qu'on pourra, voilà, avoir mis en place tellement de choses efficaces qu'on pourra avoir des articles dans la presse avec une biodiversité qui revit, qui renaît, ou est-ce que c'est complètement utopique pour vous?
Non, moi je suis de nature positive. Je pense que on est peut-être passé par des phases de surconsommation dans les années 90, 2000. Mais aujourd'hui, je suis assez sûre qu'on est dans une civilisation, même si elle a un besoin individualiste, qui est une civilisation qui se dit qu'elle est reliée. Elle est reliée à son environnement, elle a besoin d'avoir des marques de reliance, c'est un besoin vital de survie. Donc moi, je suis aussi assez positive sur la compréhension que peuvent avoir les enfants de l'état de la planète, sans être catastrophique, mais se dire qu'ils peuvent eux-mêmes peut-être changer un certain nombre de choses. Je milite à la LPO et on voit les week-ends de comptage, des familles qui vont compter ensemble les oiseaux. Alors ça change pas tout, mais c'est aussi des comportements individuels positifs. Et puis après, sur les grandes mesures, on a absolument besoin de grandes orientations internationales. On ne sauvera pas la nature en ayant juste des mesures individuelles. On a besoin urgent d'un cadre mondial solide de conservation de la nature avec des objectifs mesurables fondés sur la science qui permettent d'assurer un avenir comme pour le climat. Et on a besoin aussi de gens qui mettent en œuvre chacun à leur niveau ces mesures de prévention. Quand on regarde, on a plus de connaissances, donc c'est pour ça aussi qu'on a des mauvaises nouvelles, mais on a aussi des raisons d'espérer parce que les plans nationaux d'action, par exemple, sur espèce par espèce, fonctionne. L'état des océans est catastrophique. On sait qu'on a de plus en plus de plastique, mais on voit qu'on a aussi des solutions qui permettront peut-être d'inverser la tendance. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est être aveugle et se dire qu'on a réussi à vivre comme ça pendant 20, 30, 50, 200 ans. Mais là, il faut se dire que c'est maintenant le moment où il est possible de changer pour qu'on ait des bonnes nouvelles à annoncer, comme on l'a de temps en temps à travers la publication des listes rouges.
Tant mieux alors. Deux petites questions pour terminer. On aime bien demander si nos invités ont une recommandation lors de lecture, de podcast. Je sais que vous écoutez beaucoup de podcasts ou documentaires ou autres qui pourraient intéresser les auditeurs.
Ah, alors, moi j'aime bien So Sweet Planet, parce que je n'allais pas citer le podcast de Vert, mais j'aime bien So Sweet Planet, c'est un podcast écolo et féministe, et je trouve qu'il ouvre les champs, il diversifie les champs de discussion, et puis peut-être dans les lectures, il y a un livre qui a été fait récemment pour la nature en ville, qui s'appelle « Réinventer la ville avec l'écologie », qui est un groupement interdisciplinaire de chercheurs aux éditions Apogée. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, en lisant, de trouver... Il présente des solutions pour la nature en ville qui concernent quand même beaucoup d'individus. Et voilà.
Ok, super. On mettra les infos, évidemment, dans la barre de description. Et pour terminer, un petit conseil pour voir la vie en vert. Alors, chez nous, la vie n'est pas en rose, elle est en vert. Mais ça peut être, évidemment, quelque chose à faire en extérieur.
Ma vie en vert à moi, quand je peux, mais malheureusement pas tous les jours, c'est je sors tôt le matin dans le jardin, dehors, pieds nus, parce que je trouve que c'est le meilleur moment de la journée. Donc, c'est évidemment, on ne peut pas tous le faire tous les matins, on n'a pas tous un jardin, mais je trouve que c'est un moment de vie. Voilà, intéressant. Et ça marche en hiver aussi.
Tout à fait. Merci beaucoup, Maud. On met toutes les infos, évidemment, le site de l'UISN en barre de description pour aller voir un peu. On vous conseille d'aller jeter un œil parce qu'il y a plein d'infos sur votre site. Et je ne sais pas s'il est assez connu, il devrait être plus connu. Et bon courage, évidemment, pour les mois à venir. On espère avoir quand même quelques bonnes nouvelles.
On en aura.
Super.
Merci à vous.
Mais merci, à bientôt.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
On voulait vous laisser avec quelques conseils faciles pour protéger la biodiversité chez vous. Premièrement, favorisez les plantes locales qui seront mieux adaptées à votre environnement. Au jardin, vous pouvez aussi conserver les plantes qui poussent spontanément chez vous. Elles seront plus résistantes, elles sont très mellifères et souvent utilisées comme plantes hôtes par les papillons. Choisissez en priorité des fleurs simples dont le pollen est facilement accessible, contrairement aux fleurs doubles comme les pivoines ou les roses, dont le surnombre des pétales cache les étamines. Sur un balcon, le plus simple est d'installer des plantes aromatiques et de laisser fleurir quelques tiges. Deuxième conseil, évidemment, bannissez les pesticides. Ils fragilisent vos plantes et entraînent une cascade de conséquences. Contamination des sols, des eaux, empoisonnement de la faune, pollution des plantes que vous consommez, il y a mille manières pour jardiner autrement. Enfin, laissez traîner le bazar. Si vous souhaitez attirer une plus grande biodiversité chez vous, en jardin ou sur un balcon, il faut apprendre à devenir un hôte accueillant. La meilleure astuce est de laisser aux animaux des endroits où se cacher, hiberner ou se nourrir. Cela peut être un tas de bois, de feuilles mortes ou même un coin sans intervention. Si vous souhaitez apprendre à jardiner pour la biodiversité, direction le numéro 10 de Vert Magazine, avec un dossier spécial sur le sujet, des conseils de culture, des astuces et des infos sur la faune et la flore autour de chez vous. Bon jardinage à vous! La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !